France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait.
Entre la Chine et les États-Unis, il y a les symptômes les plus impressionnants, les plus médiatiques. Les ballons espions, les sanctions économiques, la guerre commerciale, les coups de force militaires dans le Pacifique. Mais au-delà, comment comprendre la rivalité, la complémentarité aussi entre ces deux puissances? Comment la Chine et les États-Unis restructurent-ils la mondialisation? Comment leurs relations se trouvent-elles au cœur des bouleversements présents et à venir? Pour en parler, je reçois ce matin Benjamin Burbaumer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maître de conférences à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage passionnant intitulé « Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation ». Cela vient de paraître aux éditions La Découverte et je commence par une citation, la vôtre. À la Maison Blanche, on estime qu'aucune région ne sera plus importante pour le monde et pour les Américains que la région Indo-Pacifique. C'est à la fois un lieu commun, j'allais dire, de le dire, et dans le même temps, on ne le réalise pas assez. Pourquoi ?
Eh bien, effectivement, l'Indo-Pacifique concentre en quelque sorte toutes les tensions qui se jouent dans l'économie mondiale. Donc, que ce soit en termes d'infrastructures, de transport maritime, aussi en termes de courses à l'armement, et puis, bien sûr, évidemment, aussi en termes de marchandises qui sont produites. C'est aussi les lieux où il y a le plus d'innovation en ce moment-là. Donc, c'est effectivement, du point de vue américain, un lieu qui est central pour le devenir du monde. Et par conséquent, en réalité, c'est aussi central pour la France.
Vous le dites dès le début, dès l'introduction de votre ouvrage, on est à moitié aveugle sur ces sujets, car soit on étudie uniquement la dimension commerciale de ces relations entre la Chine et les États-Unis, soit la dimension strictement militaire, mais on mêle trop peu les deux. Pourquoi, là encore, avez-vous choisi d'intriquer les approches ?
En effet, l'originalité de mon travail, c'est de penser l'économie et la politique de manière conjointe. Alors, la division disciplinaire, en quelque sorte, du travail académique fait souvent qu'on ne fait justement pas ça. Alors que quand on regarde la réalité aujourd'hui, eh bien, on voit que les deux dimensions politiques et économiques s'imbriquent constamment. Et donc, pour identifier les problèmes, pour identifier des tendances dans l'économie et dans la politique mondiale, il faut penser les deux de manière conjointe.
Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui l'état de ces relations entre la Chine et les États-Unis ? Il y a un paradoxe fort, ce qu'on montre, ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est une rivalité apparente, ambivalente, qui est dans le même temps une très très forte complémentarité que votre ouvrage met en lumière.
Eh bien, l'idée précisément de mon livre, c'est de mettre en lumière un paradoxe. Le paradoxe de la montée en puissance de la Chine, c'est qu'en devenant capitaliste, la Chine s'est retrouvée contrainte de saper le processus même qui a permis son essor, à savoir la mondialisation. Et quand je dis mondialisation, je précise qu'il s'agit de la mondialisation réellement existante, c'est-à-dire un processus sous supervision américaine. Donc la Chine ne s'oppose pas à l'idée de marché mondial en soi. Elle s'oppose au marché mondial sous supervision américaine, d'où sa contestation de la mondialisation. Donc en quelque sorte, la mondialisation se fait dévorer par sa progéniture.
Alors on va tenter de comprendre justement ce processus avec vous, Benjamin Burbaumer. Et pour cela, on va faire un peu d'histoire, remonter dans les années 70, se rendre aux États-Unis. À cette époque, dans ce pays, les entreprises, le marché est soumis à un grave problème de rentabilité qui l'oblige à tout reconsidérer. Expliquez-nous.
Alors effectivement, le moment des années 70 aux États-Unis est clé pour comprendre la situation d'aujourd'hui, puisque la situation était une situation de crise durable, extrêmement profonde. Les entreprises n'arrivaient pas à redresser les profits. Et donc, pour y parvenir, il fallait revoir non seulement la structure de la société américaine en tant que telle, mais il fallait trouver une solution qui aille même au-delà du territoire américain. C'est là que naît l'idée de mondialisation qui va ensuite être mise en œuvre effectivement par l'État américain, comme je le démontre assez nettement dans le premier chapitre du livre. Donc c'est vraiment une solution spatiale au problème de profitabilité aux États-Unis.
Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça signifie que le marché américain est désormais trop petit pour les entreprises américaines, pour leur permettre de croître plus encore et qu'il faut viser l'internationalisation ?
Eh bien, un exemple assez parlant, c'est que les entreprises américaines estimaient que le coût de la main-d'œuvre était trop cher aux États-Unis. Et une des solutions, ce serait de recourir à une main-d'œuvre bon marché à l'étranger, dans d'autres pays moins développés. Et évidemment, on comprend très très vite pourquoi la Chine est la pièce maîtresse de cette solution spatiale à la crise d'accumulation aux États-Unis. Donc les entreprises cherchaient, entre autres, il y a aussi un volet technologique, mais il y a aussi un volet salarial. Donc de ce point de vue-là, externaliser la production délocalisée était une option tout à fait intéressante pour les sociétés américaines. Et là, voilà, bah, l'Asie, c'est parfait.
Crise de la rentabilité aux États-Unis et dans le même temps, la Chine traverse également une crise particulière. Il faut la décrire.
Exactement. La période des années 70, c'est pas seulement une crise aux États-Unis, c'est aussi une crise très différente, cette fois-ci en Chine, où il y a des problèmes d'approvisionnement, où la production manufacturière est pas très dynamique. Et donc là, au sein du Parti communiste chinois, des personnes, des hauts responsables s'interrogent aussi sur la voie de sortie. Et la voie de sortie qu'ils trouve, c'est la libéralisation. Ils regardent un peu les pays voisins, la Corée, Taïwan, et ils se disent, bah, ces pays-là sont en lien avec le marché mondial qui est en voie de constitution. Pourquoi nous, en Chine, on ferait pas pareil? Et donc, on a cette situation assez curieuse où, dans les années 70, on observe une alliance de circonstances entre des capitalistes américains et des communistes chinois. Ils sont tous les deux d'accord pour intégrer la Chine dans la mondialisation, mais ils sont en désaccord profond sur la place précise que doit occuper la Chine dans la mondialisation, ce qui est une des sources des conflits actuels.
C'est-à-dire effectivement que pour les États-Unis, d'un côté, la Chine apparaît comme subordonnée à leur pays. Elle est au fond l'usine du monde et en premier lieu l'usine des produits américains. La Chine pensait à autre chose ?
Mais c'est très important. Pour les Américains, effectivement, la Chine devait simplement permettre de redresser les profits des grandes sociétés, alors que du point de vue des autorités chinoises, la mondialisation devait être le moyen d'une accélération du développement économique national. Donc on a deux objectifs très différents. Ils pouvaient coïncider pendant un certain temps, les années 80, 90. C'est là que se crée cette idée de symbiose transpacifique. C'est la mondialisation heureuse. Sauf que, précisément en raison des attentes divergentes vis-à-vis de la mondialisation, eh bien, tout le processus souffre d'une instabilité latente qui devient qui se transforme en conflit ouvert à partir des années 2000. Et c'est important les années 2000 parce que ça nous dit que les problèmes ne viennent pas seulement de Trump, de Xi Jinping, c'est beaucoup plus tôt en réalité.
Et d'ailleurs vous l'écrivez assez nettement, je vous cite là encore, des attentes divergentes quant à la place précise que la Chine doit prendre dans la mondialisation forment la racine profonde des tensions actuelles, fin de citation. La racine profonde, c'est justement c'est cette divergence de point de vue quant à la place que chacun de ces pays doit adopter au sein de la mondialisation.
Exactement. On a des attentes divergentes et j'ajoute un autre élément un peu plus économique, à savoir que la Chine, non seulement elle rejoint la mondialisation, mais elle transforme totalement son système socio-économique. Elle devient capitaliste. Et en devenant capitaliste, elle subit aussi les déséquilibres propres au capitalisme. Et donc, assez vite, au cours des années 2000, on voit un déséquilibre important entre la consommation et la production en Chine. Donc la Chine elle-même cherche une solution spatiale à une crise de suraccumulation qui se profile. Donc la Chine, maintenant devenue capitaliste, rencontre le même problème que les sociétés américaines dans les années 70 et cherche à échapper à la crise en inondant les marchés étrangers de marchandises, en investissant. Et évidemment, ça se fait aussi au détriment du coup des intérêts des sociétés multinationales américaines.
Est-ce qu'on pourrait résumer les choses, Benjamin Burbaumer, en disant que dans le fond, les entreprises chinoises deviennent des concurrentes alors qu'elles devaient rester des prestataires pour les États-Unis?
Alors du point de vue américain, c'est exactement ça. Et j'ajoute un élément de complexité, mais qui est crucial pour comprendre la profondeur du conflit actuel, à savoir que, en réalité, il ne s'agit pas seulement d'une bataille pour les parts de marché, mais c'est une bataille pour le contrôle des marchés en tant que tel. D'où l'idée de s'intéresser aux infrastructures dans mon livre. J'accorde beaucoup de place à cette question-là, puisque elle permet de comprendre que le conflit n'est pas seulement ponctuel, mais très durable.
Vous dites notamment qu'en économie, on s'intéresse un peu trop aux flux entre les pays, notamment aux flux de capitaux, et pas assez aux infrastructures qui permettent à ces flux de transvaser entre les pays. Pourquoi ? En quoi c'est fondamental de s'intéresser à ces infrastructures ?
Alors l'infrastructure, c'est en quelque sorte ce réseau rhizomatique sous-jacent au marché mondial. Pour permettre la rencontre entre l'offre et la demande, il faut une infrastructure. Par conséquent, celui qui contrôle l'infrastructure a une influence déterminante sur les flux en tant que tels. D'où précisément l'importance que j'accorde aux infrastructures. Et quand je dis infrastructure, je ne parle pas seulement des infrastructures physiques, comme les routes, comme les réseaux électriques. Je parle aussi des infrastructures numériques, techniques, monétaires et militaires. Tout cela, il faut le prendre en compte pour comprendre à quel point le défi chinois à la mondialisation est profond et durable.
Alors prenons justement l'exemple peut-être des infrastructures monétaires, car c'est sans doute le plus illustratif, le plus puissant pour comprendre ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. En un exemple concret, en quoi la guerre en Ukraine, par exemple, permet-elle de repenser la compétition entre les infrastructures américaines d'un côté, chinoises de l'autre ?
Eh bien, les sanctions financières contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine sont effectivement assez révélateurs. La première chose qu'on peut dire, c'est que ces sanctions, ont été une plutôt mauvaise idée du point de vue américain. Les Américains, en quelque sorte, se sont tirés une balle dans le pied. Parce que la Russie, auparavant, refusait totalement de faire du commerce en monnaie chinoise et tout d'un coup coupée du dollar en raison des sanctions. Elle s'est totalement tournée vers la monnaie chinoise. Je les documente assez précisément dans le livre. Donc, tout d'un coup, en réalité, les États-Unis ont donné un coup de pouce à l'internationalisation de la monnaie chinoise. Projet que Pékin poursuit depuis un certain nombre d'années. Mais là, on a un coup d'accélérateur. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à travers ces sanctions, qui sont très lourdes et assez inédites, Washington montre aussi au reste du monde qu'utiliser le dollar ne vient pas sans contrainte. C'est une source de vulnérabilité pour une série de pays qui, un jour ou un autre, pourraient se retrouver en désaccord politique avec Washington.
Ce n'est pas une monnaie neutre.
Tout à fait. Elle n'est pas du tout neutre. C'est au contraire un instrument de pouvoir extraterritorial pour les États-Unis. C'est aussi évidemment un outil économique qui génère des retombées disproportionnées pour l'économie américaine. Donc ça favorise les multinationales américaines. Mais c'est aussi un instrument de politique crucial pour les États-Unis. Et on voit à nouveau là que politique et économique s'imbriquent. Et il faut penser les deux pour comprendre ce qui se joue.
Avec cet exemple, en vous écoutant, en vous lisant, on comprend que la Chine est en train de réorganiser fondamentalement la mondialisation autour d'elle-même. Plus largement, comment s'y prend-elle ? Est-ce que même du point de vue théorique et par les acteurs du Parti communiste chinois, cette réorganisation est pensée intellectuellement ?
Eh bien, on peut prendre plusieurs exemples. Typiquement, tout le monde a entendu parler des nouvelles routes de la soie. Et alors, les nouvelles routes de la soie, c'est notamment un projet de construction d'infrastructures. Et alors, pourquoi est-ce que ça rencontre beaucoup de succès dans le reste du monde, dans le Sud ? Eh bien, parce que précisément, en raison du consensus de Washington, des politiques d'ajustement structurel, ces pays manquent d'infrastructures. L'ONU évalue à 1 billion de dollars par an le besoin de dépenses pour construire les infrastructures qu'il faut dans le Sud. Eh bien, la Chine, elle arrive et elle propose des infrastructures. Et comme l'a dit récemment un dirigeant d'un pays du Sud, la Chine nous donne un aéroport, les États-Unis nous donnent une leçon de morale. Et là, on résume assez bien ce que fait la Chine. Elle s'adresse au pays, elle répond à des besoins. Évidemment, non sans problème, surendettement, dépendance. N'empêche, la Chine répond là à un besoin. Donc ça permet d'augmenter la popularité de la Chine et de répondre à des besoins concrets. De la même manière, le projet d'internationalisation du renminbi, de la monnaie chinoise, est un projet qui vise à concurrencer la suprématie du dollar dans l'économie mondiale. Donc on a une série de projets de ce type qui sont en cours depuis une dizaine, quinzaine d'années et qui, quand on les pense ensemble, montrent bien que la Chine est en train de mettre en place les infrastructures pour une organisation d'un marché mondial sinocentré, chose évidemment inacceptable pour les États-Unis, pour leurs sociétés multinationales, ce qui place la Chine d'emblée sur les rails de la confrontation avec les États-Unis.
Et si on va plus loin encore, et là je continue de vous suivre, vous dites qu'il faut deux choses pour construire une hégémonie d'une façon générale, mais plus encore peut-être pour l'hégémonie chinoise. C'est d'abord, vous venez de le décrire, la satisfaction des besoins des pays périphériques, et là en l'occurrence des besoins des pays en développement, mais il faut aussi un imaginaire de la paix. Alors on est un peu surpris en vous écoutant sur cet imaginaire de la paix, parce qu'on se dit la Chine est peut-être l'un des pays aujourd'hui les plus belliqueux quand on regarde son rapport à Taïwan, quand on regarde son rapport même à d'autres régions qui sont dans son giron territorial aujourd'hui.
Alors, effectivement, un des héritages de la pensée d'Antonio Gramsci, c'est le concept d'hégémonie, qui souvent est un peu utilisé à tort et à travers, et qui est utilisé comme un synonyme de domination. Mais en réalité, quand on utilise l'hégémonie telle que Gramsci l'a définie, c'est un mélange savamment orchestré entre le consentement et la force. Et effectivement, la Chine crée dans beaucoup de pays du Sud l'impression d'être garante d'un ordre mondial désirable. Donc là, il y a la dimension du consentement. Et là, effectivement, il est crucial de comprendre à quel point les perceptions de l'action de la Chine dans le monde divergent. Et je mobilise aussi une série de données, d'enquêtes notamment, sur la perception des grandes puissances dans le reste du monde. Et là, ce qu'on observe très très nettement, c'est que le consentement à l'ordre hégémonique américain, il s'érode très très fortement depuis un certain nombre d'années. Et effectivement, nous, on voit que la Chine est une menace pour Taïwan, dans l'Indo-Pacifique plus généralement, mais ce que voient beaucoup de pays dans le Sud, c'est que la Chine se pose en intermédiaire de négociations en Ukraine, à Gaza. Donc la Chine, pour eux, est considérée comme un faiseur de paix, alors que les États-Unis paraissent comme hypocrites.
Et vous dites notamment, la Chine a en effet acquis une réputation internationale pour son rôle dans les opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies.
Effectivement, et alors ça passe par deux canaux. D'une part, la Chine, bon, elle a une population nombreuse, donc elle fournit beaucoup de soldats pour ses opérations. Et puis, elle a très très fortement aussi augmenté sa contribution financière à ce budget de l'ONU, tandis que les États-Unis ont baissé le leur. Les États-Unis restent premier contributeur, mais accordent beaucoup moins de budget à ce type de tâches. Ça fait partie effectivement des choses par lesquelles la Chine se présente comme un hégémon bienveillant. Il y a plein d'autres exemples. On pourrait même curieusement parler aussi de la diplomatie des vaccins. Il y a de multiples exemples de ce type-là où la Chine se pose effectivement en faiseur de paix, tandis que les États-Unis, eux, se retrouvent en quelque sorte dans le piège de l'hégémonie. Ils n'arrivent plus à générer l'adhésion spontanée du reste du monde à leur ordre. Et ils essaient de compenser par un recours croissant à la force. Et ça, on le voit assez bien dans les dépenses militaires américaines, qui aujourd'hui sont plus élevées que pendant les moments les plus chauds de la guerre froide.
Pourtant, la croissance des dépenses chinoises en matière d'armement est exponentielle. La militarisation même de l'industrie chinoise est impressionnante. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors là, on est typiquement dans une des expressions de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Vous avez tout à fait raison. La Chine connaît une croissance extrêmement forte aussi de ses dépenses militaires. Aujourd'hui, la Chine dépense à peu près 300 milliards de dollars par an pour son armée. Les États-Unis, c'est 800. Mais l'écart entre les deux s'est effectivement réduit du fait de la plus forte croissance chinoise. Donc ça, c'est un fait assez important et qui se manifeste concrètement par des capacités d'intervention plus importantes et qui fait que on a d'un côté le pivot asiatique des États-Unis, donc 60% des forces armées américaines situées à l'étranger doivent être dans l'Indo-Pacifique, et en même temps la Chine, elle aussi, investit militairement plus fortement cet espace-là, de sorte à ce que on se retrouve dans des situations de frottement entre les deux.
Si je tire le fil des infrastructures et la façon dont la Chine est en train de mettre en place un certain nombre d'infrastructures dans le monde pour installer sa propre hégémonie, vous donnez un exemple édifiant, c'est celui des médias. La Chine crée ses propres médias à travers le monde pour diffuser justement sa pensée et installer cette hégémonie.
Effectivement, la Chine a bien compris que l'hégémonie passe notamment par la création d'un pays qui assure un ordre mondial désirable. Et un des vecteurs de ce processus, c'est effectivement la propagation de médias. Donc on a maintenant une multitude de médias chinois qui suivent d'ailleurs un peu les exemples donnés par la France en termes de médias internationaux. Et donc la Chine s'installe effectivement dans une série de pays avec une multitude de canaux de diffusion, qu'ils soient écrits, numériques, sur papier ou alors la télé. Donc voilà, plein d'exemples.
Merci beaucoup Benjamin Burbammer. Je rappelle que vous êtes économiste, maître de conférences à Sciences Po Bordeaux, auteur de Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Ça vient de paraître aux éditions La Découverte. On va poursuivre ensemble cette discussion. À partir de 8h20, vous serez rejoint par Mathilde Velliet. Elle est chercheuse à l'IFRI, doctorante à l'université Paris-Cité.
France Culture, les matins du samedi, Quentin Lafay.
État des relations entre la Chine et les États-Unis, nous en parlons ce matin donc avec Benjamin Burbammer. Il est économiste, maître de conférences à Sciences Po Bordeaux. Il est l'auteur de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Découverte et intitulé Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Et il est rejoint ce matin par Mathilde Velliet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IFRI, vous êtes doctorante à l'université Paris-Cité, ex-Marseille. Et pour commencer, peut-être, on a beaucoup, dans cette première partie, parlé de la Chine et de son positionnement. Celui des États-Unis est plus ambigu. On a l'impression que ce pays a du mal à se définir dans ses relations avec la Chine, entre promotion du libre-échange d'un côté et durcissement du discours commercial de l'autre. Comment est-ce que vous définiriez cet équilibre complexe ?
Oui, alors c'est surtout un équilibre complexe qui a beaucoup évolué ces dernières années, puisque si on simplifie à partir de la normalisation des relations avec la Chine dans les années 70 et plus encore à partir de son intégration dans l'Organisation mondiale du commerce, etc., l'idée dominante aux États-Unis, une forme de consensus, c'était que le fait d'intégrer la Chine dans le système commercial international allait peut-être permettre de la libéraliser économiquement et aussi politiquement. Donc le but, c'était de faire d'elle, comme a dit le secrétaire d'État de Bush alors, une partie prenante responsable du système international. Et c'est pas uniquement une forme de naïveté de la part des États-Unis, c'est aussi un calcul basé sur les éléments de décision disponibles à l'époque, à savoir bien sûr que la modernisation militaire chinoise était préoccupante, mais ses capacités restaient très très nettement inférieures, et avec une volonté qui semblait peut-être plus d'hégémonie au maximum régionale limitée à la région asiatique. Aussi le fait que notamment l'administration Obama par exemple avait envie d'engager la Chine pour résoudre d'autres problèmes internationaux, pas uniquement par naïveté, sur les questions iraniennes par exemple, de Corée du Nord, ils voulaient que la Chine serve de partie prenante responsable pour la résolution de ces conflits, ou dans les questions climatiques également. Évidemment, il y avait le sujet des intérêts économiques qu'avaient les États-Unis, en se disant que intégrer la Chine, c'était aussi une source de profit potentiel très intéressant. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'idée à l'époque, c'était que, de toute façon, sur la question des technologies, un endiguement de la Chine était impossible. Puisque voilà, la diffusion des technologies était mondiale, il n'existait pas de système mondial de contrôle des exportations qui aurait permis de confiner la Chine et de la garder dans cette absence de développement. Et également, l'industrie militaire américaine était dépendante des technologies commerciales et donc avait intérêt à pouvoir faire en sorte que cette industrie exporte ces technologies pour générer des revenus et nourrir la R&D pour continuer à être le plus innovant, etc. où c'était pas uniquement une naïveté, c'était vraiment un peu un ensemble de pensées, de facteurs qui conduisaient les États-Unis à penser que peut-être qu'être mutuellement interdépendant était bénéfique. Et ça, ça a vraiment changé à partir de la fin des années 2010.
Benjamin Burbaumer, vous expliquez bien dans votre livre qu'il ne faut pas seulement considérer les relations entre la Chine et les États-Unis au vu du prisme de l'État, au vu du prisme entre les relations entre les États, mais que les entreprises elles-mêmes jouent un rôle capital absolument primordial. Justement, quel rôle ont joué les entreprises américaines dans la définition de ces relations ?
Bien, c'est effectivement un élément crucial. Ce qu'on observe dans de nombreuses études maintenant, c'est que effectivement, les sociétés multinationales américaines ont une influence clé dans la prise de décision en matière de politique économique étrangère de l'État américain. Et donc, l'intérêt des multinationales, c'était la création d'un marché mondial, donc voilà, une possibilité d'engranger des profits aux quatre coins du monde, les chaînes globales de valeur. Mais évidemment, le pari sous-jacent serait que les multinationales américaines gardent la main sur cette économie mondiale. Or, ce qui se passe avec la montée en puissance de la Chine, c'est que précisément, des compétiteurs tout aussi performants voit le jour. Et c'est là aussi qu'on peut faire le lien avec cette idée libérale que l'interdépendance économique créerait de la paix entre les nations. Et le problème de cette idée, c'est qu'elle est excessivement statique, alors que les relations économiques, par définition, sont dynamiques. Donc ce qui apparaît comme une situation gagnant-gagnant, un jour, très probablement, ne le sera plus un peu plus tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Joe Biden, le 17 avril dernier, a annoncé vouloir tripler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium venus de Chine. Un choix politique, évidemment, qu'il faut replacer dans le contexte de la campagne présidentielle américaine. Mathilde Velia, quelle place occupent justement ces relations entre les États-Unis et la Chine dans cette campagne, précisément ?
Alors, les questions de politique étrangère américaine sont parfois considérées comme un peu plus marginales dans les décisions de l'électorat américain, qui est quand même souvent centré, par exemple, sur des questions économiques, avec l'inflation, etc., et pour laquelle l'administration Biden a un peu de mal à faire valoir un bilan économique pourtant plutôt positif, et des questions sociétales, comme la question du droit à l'avortement, qui me semble peut-être plus importante, surtout dans la mesure où, finalement, la question chinoise est assez bipartisane, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un positionnement des deux parties. Et on l'a vu avec la continuité des politiques entre l'administration Trump et Biden, même si elles sont mises en œuvre de façon différente. L'objectif de courir plus vite que la Chine, de maintenir le leadership américain et d'avoir une politique plus ferme envers la Chine est bipartisan. Donc ça va sans doute être un enjeu de la campagne au sens où ça va apparaître dans les rhétoriques, toujours une accusation que l'autre est plus faible sur la Chine, plus soft on China, etc. Mais c'est sans doute pas non plus l'enjeu. Majeur.
Vous êtes d'accord avec cette idée, Benjamin Burbaumer ? Au fond, il y a un alignement entre Obama, Trump et Biden sur cette question des relations entre les États-Unis et la Chine ?
Eh bien, comme le disait récemment un des chroniqueurs du Financial Times, Biden, c'est l'héritier de Donald Trump. Évidemment, économiquement parlant, parce que là, on a effectivement une continuité. Et en réalité, la continuité commence déjà avec Obama. Un des derniers actes de l'administration Obama en 2016, c'était de mettre en place un groupe de travail chargé de défendre la supériorité américaine en matière de semi-conducteurs. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une prise de conscience, mais qui est pourtant assez tardive, parce qu'en réalité, la Chine a déjà développé son plan de rattrapage technologique dès le milieu des années 2000, et donc c'est un réveil tardif, mais qui montre que même déjà sous Obama, l'ampleur du conflit et de la rivalité était comprise.
Mathilde Velier.
Oui, c'est tout à fait exact, et c'est intéressant de voir que même les officiels de l'administration Obama me disent, par exemple, on a tous commencé en étant des colombes et on a tous terminé l'administration Obama en étant des faucons. En revanche, une différence, et c'est pour ça que je dirais pas qu'il y a tout à fait une continuité entre l'administration Obama, Trump et Biden, c'est que le groupe de travail que vous évoquez, finalement, a des conclusions dans le domaine des semi-conducteurs qui favorisent plutôt des outils de l'ordre de la politique industrielle, ou en tout cas, si on n'utilise pas ce terme qui était encore un peu tabou à l'époque, de essayer de faire en sorte que l'industrie américaine court plus vite, plutôt que des mesures restrictives de contrôle des exportations, d'essayer d'empêcher la Chine de se développer, ce qui a été une véritable innovation à partir de la deuxième partie de l'administration Trump et pour le coup, effectivement, qui a été tout à fait continuée dans l'administration Biden.
Il faut nous expliquer, Mathilde Vellier, pourquoi la compétition aujourd'hui entre ces deux nations, entre ces deux superpuissances, se concentre précisément sur les semi-conducteurs.
Alors, effectivement, les semi-conducteurs font partie des technologies jugées critiques qui sont nombreuses et qui, en fait, selon les termes de Jake Sullivan, constituent de tels démultiplicateurs de force dans l'industrie de manière générale, pour la puissance commerciale américaine et pour sa puissance militaire, qu'elles sont absolument indispensables et que les États-Unis doivent garder leur leadership sur ces technologies. Les semi-conducteurs sont un point de concentration parce qu'ils sont présents partout, par définition. Alors, dans des produits d'électroménager, les voitures pour les puces moins avancées, ou permettant des capacités de calcul extrêmement puissantes pour, par exemple, développer des modèles d'intelligence artificielle.
On dit parfois qu'ils sont le pétrole des nouvelles technologies, c'est-à-dire cette matière invisible mais nécessaire partout.
Oui, sauf que une des différences, bien sûr, c'est que ils sont le produit d'une chaîne de valeur mondialisée et extrêmement complexe, dans lequel les États-Unis ont encore un certain nombre d'avantages. Il existe encore des goulets d'étranglement sur lesquels, justement, ils essayent de jouer pour essayer de ralentir le développement de la Chine pour les semi-conducteurs, notamment avancés. Et en fait, c'est justement un exemple intéressant parce que c'est pas totalement nouveau, puisque c'était déjà dans les semi-conducteurs, par exemple, que se concentrait toute une série de mesures et d'inquiétudes américaines dans les années 80 dans le cadre de la compétition technologique face au Japon.
Benjamin Burbaumer, cette compétition pour les semi-conducteurs, elle s'incarne dans un lieu précis, c'est Taïwan. Vous décrivez dans votre livre pourquoi cette petite île, au fond, est absolument cruciale, déterminante dans les relations entre ces deux pays. Pourquoi ?
Bien, pour pouvoir identifier la centralité de Taïwan, il faut tout d'abord comprendre l'évolution historique qui est en train de se passer avec les technologies de l'information et de la communication. En économie, on raisonne en termes de paradigme techno-économique, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un type de technologie qui irrigue le reste du fonctionnement d'une économie. Pendant longtemps, dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'était le pétrole et l'automobile. Aujourd'hui, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Et alors là, la Chine bénéficie d'une fenêtre de tir assez unique, parce que normalement, le processus d'innovation est un processus cumulatif où les retardataires courent toujours derrière les précurseurs sans pouvoir les atteindre. Et alors, quand on passe d'un paradigme à un autre, eh bien, on remet en quelque sorte les comptes à zéro et la Chine, la montée en puissance de la Chine arrive pile à ce moment-là et permet à la Chine de faire un rattrapage. On pourra spécifier les conditions parce que tous les pays du monde n'en ont pas bénéficié comme la Chine. Et donc, une fois qu'on est dans ce nouveau paradigme, effectivement, Taïwan est crucial parce que Taïwan est tout simplement le fabricant principal et très largement principal des puces les plus avancées qui sont donc utilisées dans les outils technologiques les plus avancés. Et alors, ce qui est embêtant du point de vue américain, c'est que Taïwan se situe à 400 km du rival principal, mais à 12 000 km du terrain américain. Et c'est pas seulement un problème du point de vue industriel, mais aussi du point de vue militaire, parce que notamment Taïwan produit des puces qui sont utilisées par l'armement américain.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'au fond, l'enjeu fondamental, l'enjeu premier pour les États-Unis relatif à Taïwan, est-ce que c'est un enjeu d'abord et avant tout commercial et industriel, Mathilde Vellier ?
En tout cas, cet enjeu commercial et industriel est effectivement fondamental. Je pense que c'est pas uniquement à cause du risque potentiel d'invasion par la Chine qui poserait effectivement une menace pour l'approvisionnement en semi-conducteurs, puisque par exemple, comme je l'évoquais, lorsque le Japon a progressé dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs dans les années 80, ça posait aussi un problème aux États-Unis. Donc c'est pas uniquement face à ce risque sécuritaire, c'est aussi parce que les États-Unis veulent aujourd'hui avoir réindustrialiser leur pays, notamment dans ces secteurs clés. Également parce que le cycle économique, disons, en termes d'offres et de demande en matière de semi-conducteurs, fait qu'il y a parfois des shortages, qui font que les États-Unis essayent de se prémunir face à ce risque de pénurie, etc. Mais effectivement, les États-Unis essayent d'améliorer encore leur partenariat, par exemple avec l'entreprise taïwanaise TSMC, pour faire en sorte qu'ils continuent bien sûr à acheter des puces taïwanaises, mais également que TSMC investisse aux États-Unis, construise des usines aux États-Unis, physiquement situées aux États-Unis. Et pour cela, ils ont déployé d'ailleurs des plans de politique industrielle et des subventions assez massives. Par exemple, le Chips and Science Act de l'été 2022 a déployé environ 50 milliards dans les semi-conducteurs qui sont en train d'attribuer progressivement. On a vu encore il y a quelques jours, il y a quelques semaines, des subventions de l'ordre de 6,5 milliards, je crois, de dollars pour TSMC, 8,8 milliards de dollars accordés à Intel, une entreprise américaine de semi-conducteurs. Donc il y a une volonté d'essayer d'aider par le rôle du gouvernement fédéral ce redéploiement de l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis.
Est-ce que les relations justement entre la Chine et les États-Unis, et notamment l'influence de la Chine, conduit les États-Unis à être un peu plus interventionnistes du point de vue économique, à permettre à l'État de jouer un peu plus dans ce jeu économique, Benjamin Birnbaumer?
Eh bien, on a souvent l'impression que les États-Unis, c'est le pays du marché libre et où l'État n'intervient pas. Et alors, c'est totalement faux. L'État américain a une politique industrielle de longue durée. Et d'ailleurs, si justement on prend l'exemple des technologies, une chose que l'économiste Mariana Mazzucato a démontré, c'est que précisément dans ces domaines-là, en réalité, il n'y aurait pas d'innovation américaine sans l'État. Et même quand on compare la Chine et les États-Unis, parce qu'on peut le faire à partir des données de l'OCDE, eh bien, on constate que dans les dépenses de recherche et de développement, en Chine, il y a une part moindre du public dans ces investissements qu'aux États-Unis. Donc l'État américain est extrêmement
plus interventionniste que l'État chinois.
Sur ce plan-là, tout à fait. Et évidemment, avec le Chips and Science Act, là, récemment, il y a une accélération, mais une accélération qui ne repose pas seulement sur des subventions et des prêts garantis, mais qui est assortie aussi à des conditions, typiquement pour pouvoir bénéficier de la manne financière de l'État américain dans ce cadre de cette loi. Eh bien, il faut s'engager à ne pas faire d'investissements supplémentaires dans les technologies de pointe en Chine. Et donc, ça a notamment conduit certaines entreprises sud-coréennes à renoncer à des investissements déjà prévus aux États-Unis, tout comme TSMC, donc la grande société taïwanaise, ben maintenant s'est engagée à faire même les puces les plus avancées de 2 nanomètres à l'horizon de 2028. Donc effectivement, l'État américain a toujours été très interventionniste, l'est encore plus aujourd'hui.
La Chine, les États-Unis et l'Europe dans tout ça, est-ce que l'Europe peine à voir aujourd'hui ce qu'il se passe en Indo-Pacifique ou dans le fond, nos intérêts sont très très loin de ce qui s'y déroule? Mathilde Vellier.
Oui, alors j'aurais voulu simplement avant rejoindre ce qui a été dit, puisque je pense qu'il y a deux volets importants de cet interventionnisme américain. Tout le volet qui a déjà été évoqué effectivement en matière de subventions, prêts garantis, déductions fiscales, etc. Donc plutôt sur le volet incitatif avec effectivement des conditions, et tout un volet restrictif qui me semble aussi très important, à la fois par des conditions imposées aux subventions comme on l'évoquait, mais aussi plus largement par toute une panoplie de restrictions qui ont été développées, qui continuent d'être développées aujourd'hui, sur par exemple, alors historiquement, ça c'est pas tout à fait nouveau, mais sur les investissements entrant aux États-Unis. Nouveauté de l'année dernière, et qui va se mettre en œuvre cette année sur les investissements américains vers la Chine, sur les exportations de technologies américaines vers la Chine, sur l'exportation des données américaines vers la Chine. Donc un peu tout un nouvel ensemble de restrictions qui me semble importante pour comprendre cet interventionnisme et simplement sur la perception
de l'Europe quant à ces relations et à ce conflit.
Et alors exactement, ces conséquences sur l'Europe, elles sont doubles, à la fois vis-à-vis de la Chine, bien sûr, avec une position européenne qui évolue progressivement, qui intègre beaucoup plus les enjeux de sécurité économique, une commission européenne qui a proposé une stratégie de sécurité économique l'été dernier, qui est en train d'être déployée par une série d'initiatives depuis janvier, et également vis-à-vis des États-Unis, puisque les Européens font l'objet d'une diplomatie, on va dire, assez engagée de la part de Washington depuis l'administration Trump, mais également sous l'administration Biden, pour essayer de faire en sorte que les Européens n'adoptent pas les technologies chinoises problématiques comme Huawei, etc., et ne vendent pas les technologies stratégiques à la Chine.
Benjamin Burbaumer, sur l'Europe en quelques mots.
Eh bien, ce qu'on peut dire sur l'Europe, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience qui s'explique par à la fois une dépendance technologique envers la Chine et puis les États-Unis qui siphonnent les capitaux européens. Et on a vu cette semaine aussi le rapport Draghi sur la compétitivité. Mais ce que comprennent pas les Européens toujours, c'est qu'en réalité, l'enjeu n'est pas seulement des parts de marché, c'est le contrôle du marché mondial. Et là, les Européens risquent de se faire écraser par les États-Unis et la Chine parce que les deux ont bien compris que c'est ça l'enjeu.
Merci beaucoup à tous les deux, Benjamin Burbaumer. Je rappelle que vous êtes économiste, maître de conférence à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Découverte, intitulé Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Mathilde Vélier, vous êtes chercheuse à l'IFRI. Vous êtes en pleine rédaction de thèse. Merci d'être venu ce matin au micro de France Culture. Et bonne rédaction, donc.
Merci beaucoup.